aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du mardi 13 novembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Un nouveau bilan de l'attentat suicide d'hier soir à Gao dans le nord du Mali qui s'établit maintenant à 5 morts et plus de 30 blessés.
Donc c'est quand ils se sont éloignés, ils ont appuyé comme on appelle sur le bouton qui a fait déclencher la bombe.
Conférence de Palerme sur la Libye, la Turquie claque la porte et le maréchal Khalifa Haftar ne prend pas part aux travaux. Le bilan des incendies en Californie s'alourdit à 44 morts, le bilan le plus lourd jamais enregistré dans cet état. Les groupes palestiniens annoncent un cessez-le-feu avec Israël. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. Le bilan de l'attentat suicide hier soir dans la ville de Gao, dans le nord du Mali, s'établit maintenant à 5 morts et 32 blessés. L'attaque visait la résidence des démineurs travaillant pour les Nations Unies. Un attentat revendiqué d'ailleurs par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
C'était vers 19h10, heure locale, que la forte détonation a retenti dans le quartier de Boulgoundié. C'était la résidence des deux mineurs travaillant pour les Nations Unies qui venaient d'être visés par une attaque terroriste. Un premier bilan fait état de 3 morts. Ce bilan a évolué ce mardi matin puisque 2 autres corps ont été retrouvés sous les décombres, ce qui fait 5 morts et 32 blessés, dont 10 cas graves admis aux urgences à l'hôpital. L'attaque a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il faut rappeler que c'est la 4e fois qu'un véhicule piégé explose dans la ville de Gao. Le dernier remonte en juillet 2018, c'était contre la force Barkhane. Par ailleurs, il faut noter qu'à Gao, la société civile et les groupes armés de la CMA et de la plateforme ont lancé une opération ville morte. Le commerce, les banques et les écoles sont restées fermées toute la journée en protestation aux consultations régionales relatives au nouveau découpage administratif. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Et je vous propose maintenant le témoignage d'un habitant de Gao sur cette attaque.
Le véhicule d'un des deux mineurs s'est précipité pour rentrer. Le kamikaze était obligé d'arrêter leur véhicule devant la porte, suivi d'une moto qui est venue prendre le chauffeur qui était dans le véhicule dans lequel se trouve la charge. Donc c'est quand ils se sont éloignés, ils ont appuyé comme on appelle sur le bouton qui a fait déclencher la bombe. Il y avait un lafgarde qui était devant la porte. Lui quand même, on n'a même pas pu l'identifier. Plus 2 autres jeunes, 5 minutes après, ont essayé de
s'approcher pour mieux voir.
Pour mieux voir. Là aussi, comme on appelle le reste de la charge, s'est explosé. Par rapport aux deux mineurs, ils sont plus d'une quinzaine. Heureusement pour eux, ils se trouvent dans l'autre bâtiment. Mais au moment où l'aménagement est venu les prendre, on a constaté quand même qu'il y a 4 cas très graves de blessés. Leur chien policier là, quand même, a trouvé la mort.
C'était un habitant de Gao au micro de Boubacar Touré. Par ailleurs, la ministre française des armées et son homologue allemande de la défense en visite ce mardi auprès des troupes allemandes et françaises à Gao ont dénoncé l'attentat suicide. Au Nigeria, 4 prêtres catholiques enlevés la semaine dernière par des hommes armés dans le sud-est du pays ont été libérés. L'enlèvement avait eu lieu le 6 novembre sur une route reliant les États du Delta et d'Edo où se rendaient les religieux. Un des principaux partis d'opposition du Gabon, l'Union nationale, a dénoncé ce mardi ce qu'il appelle un mensonge d'État après une déclaration de la présidence à Libreville sur l'état de santé du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba est hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad. Dimanche, le porte-parole de la présidence a cité un rapport médical du président déclarant que M. Bongo était en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. L'Union nationale demande la publication de ce bulletin de santé. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a démissionné ce mardi. Il justifie son départ au nom de l'intérêt national et de celui du parti pour, dit-il, soulager le président d'une pression inutile. Malusi Gigaba avait reconnu fin octobre qu'il avait été en 2017 la cible de tentatives d'extorsion après le vol d'une vidéo à caractère sexuel le concernant à la suite du piratage de son téléphone. La conférence de Palerme sur la Libye a subi un nouveau coup dur avec le départ précipité ce mardi de la Turquie, outré d'avoir été exclu d'une réunion informelle. Le maréchal Haftar, pourtant présent sur place, n'a pas pris part à la rencontre. Le point avec Morgane Guiriec.
Le vice-président turc, Fuat Oktay, a préféré claquer la porte après avoir été tenu à l'écart d'une réunion des principaux acteurs de la crise libyenne. Cette conférence, convoquée par le gouvernement italien, a également été boycottée par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye. Ce dernier s'est toutefois rendu en Sicile pour rencontrer plusieurs acteurs nationaux et internationaux en Libye lors d'une réunion informelle ce matin. Dans son entourage, on explique que ce militaire, qui a fait de l'extrémisme islamiste sa bête noire, a refusé de s'asseoir avec certains des participants qu'il juge proches des islamistes. Cette rencontre a notamment rassemblé le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le chef du gouvernement d'Union nationale internationalement reconnu Fayez al-Sarraj, l'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé, et le président du Conseil européen, Donald Tusk. Le maréchal Haftar, qui a volé la vedette à tous les autres participants, a quitté la Sicile à la fin de cette réunion informelle sans attendre la session plénière.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le bilan de l'incendie de forêt en Californie est passé à 44 morts. Le Camp Fire, comme on l'appelle, est encore loin d'être contenu. Nathalie Barche.
Les restes de 13 nouvelles personnes ont été découverts. Il s'agit de l'incendie de forêt le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, a déclaré le shérif du comté de Butte, Corey Honia. Plus de 220 000 personnes ont été déplacées et les autorités sont toujours sans nouvelles de plus de 200 habitants. L'incendie de Woolsey continue de faire rage à Malibu et dans d'autres communautés près de Los Angeles, où 370 structures ont été détruites, dont des maisons de célébrités. Les pompiers signalent que les deux principaux incendies sont loin d'être confinés et que les prévisions indiquant davantage de vent et de sécheresse risquent d'empirer la situation. Le Camp Fire a déjà dévasté plus de 45 000 hectares et détruit près de 6 500 bâtiments. Cet incendie, qui fait rage depuis jeudi au nord de Sacramento, a fauché plus de vies que le Griffith Park Fire, dans lequel 29 personnes avaient péri près de Los Angeles en 1933.
La chancelière allemande Angela Merkel a prôné à son tour la création à terme d'une véritable armée européenne, peu après une vive controverse sur le sujet entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Nous devons élaborer une vision nous permettant d'arriver un jour à une véritable armée européenne, a déclaré Madame Merkel. La semaine dernière, le président français avait proposé la création d'une véritable armée européenne, une proposition que le président américain avait qualifiée d'insultante. La chaîne CNN a annoncé ce mardi qu'elle attaquait en justice la Maison Blanche pour avoir retiré l'accréditation d'un de ses journalistes après un échange houleux avec le président Trump. La Maison Blanche a réagi à la plainte de CNN, la qualifiant de grand spectacle, promettant de se défendre avec force. Les groupes palestiniens, dont le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, ont annoncé ce mardi un cessez-le-feu avec Israël, conclu indirectement sur intercession égyptienne. Nani Talani.
Les Palestiniens ont indiqué qu'ils vont respecter l'accord si l'État hébreu le respecte également. Les efforts de l'Égypte ont permis d'aboutir à un cessez-le-feu entre la résistance et l'ennemi sioniste, et la résistance le respectera aussi longtemps que l'ennemi sioniste le respectera, ont annoncé les groupes dans un communiqué conjoint. Aucune confirmation n'a été obtenue du côté israélien. La bande de Gaza et son proche territoire israélien sont le théâtre depuis dimanche de la plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014. Les groupes palestiniens ont tiré des centaines de roquettes et d'obus de mortier en direction d'Israël. L'armée israélienne a frappé des dizaines de positions du Hamas et du djihad islamique. La branche armée du Hamas a indiqué agir en représailles à une incursion des forces israéliennes qui s'était soldée dimanche par la mort de 7 de ses membres et celle d'un officier israélien.
En Jordanie, 10 personnes jugées pour une attaque djihadiste et en fait 10 morts fin 2016 ont été condamnées à des peines allant de 3 ans de prison à la perpétuité. L'attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique. L'audience a eu lieu en présence de 10 des 11 personnes jugées pour l'attaque de Karak. 7 policiers, 2 civils jordaniens et une touriste canadienne avaient perdu la vie. 34 personnes, dont 15 policiers, avaient également été blessées. Le conseil municipal de Téhéran a élu un technocrate relativement peu connu au poste de maire de la capitale iranienne. Pirouz Harachi est le troisième maire élu pour présider aux destinées de la ville. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
La Banque africaine de développement approuve un financement de 76 millions de dollars pour stimuler le développement intégré et l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ces finances serviront à exécuter des projets de gestion durable des ressources naturelles partagés par 9 États membres du bassin du Niger, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Le programme est cofinancé avec le Fonds vert pour le climat, l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'investissement forestier et les différents gouvernements à hauteur de 134 millions de dollars. Le gouvernement zimbabwéen a lancé un appel d'offres pour la cession des parts de l'État dans la compagnie aérienne nationale dans le cadre du programme de privatisation des entreprises déficitaires. Les investisseurs potentiels sont appelés à présenter leur offre avant le 23 novembre, après le règlement d'un droit non remboursable de 20 000 $. Il n'a pas été précisé si l'État allait céder la totalité ou une partie de ses parts dans la compagnie. Air Zimbabwe, qui doit plus de 300 millions de dollars à ses créanciers, a été mise sous administration provisoire en octobre dernier. Pour finir, l'emprunt obligataire 2018-2023 du Cameroun, d'un montant de 150 milliards de francs CFA et assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5,6%, a été clôturé avec succès. Ce succès est le témoignage de l'attrait qu'exercent les titres publics camerounais sur les investisseurs.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Aubameyang manquera encore à l'appel.
L'attaquant d'Arsenal sera une nouvelle fois absent avec le Gabon au moment d'affronter le Mali pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Initialement convoqué, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas encore rejoint Libreville et souffrirait d'un mal de dos. S'il a répondu favorablement à l'appel lors du premier match de Daniel Cousin contre le Soudan du Sud à Libreville, le meilleur gunner du mois d'octobre a refusé de prendre le vol pour le match retour à Djouba, invoquant un avion en mauvais état. C'est donc sans leur capitaine que les Panthers vont défier les Aigles pour tenter de faire un pas de plus vers le Cameroun.
Le Wydad Athletic Club de Casablanca a déjà limogé René Girard.
Oui, nommé entraîneur du Wydad à Casablanca fin septembre, le technicien français a été limogé ce mardi. René Girard perd des débuts compliqués avec une élimination en demi-finale de la Coupe du Trône et en huitième de finale de la Coupe arabe des clubs. C'est donc avec un nouveau coach que le WAC abordera la prochaine édition de la Ligue des Champions pour laquelle il est exempté de tout préliminaire. Avec 3 points au classement, le Wydad Athletic Club de Casablanca est la lanterne rouge de la première division marocaine.
En Espagne, Alba nie toute brouille avec Luis Enrique.
Il ne s'est rien passé entre Luis Enrique et moi, a démenti le latéral gauche, rappelé en équipe d'Espagne après 2 non-convocations successives, niant ainsi tout différent avec le sélectionneur, son ex-entraîneur à Barcelone. Auteur d'un excellent début de saison avec le FC Barcelone justement, 2 buts et 6 passes décisives, Jordi Alba a assuré que la seule mésentente qu'il ait eue avec le technicien concernerait son temps de jeu réduit lors de la 3e et dernière saison barcelonaise de Luis Enrique. L'Espagne affronte la Croatie jeudi en Ligue des Nations et devra gagner pour s'assurer la qualification pour la finale à 4 de cette nouvelle compétition.
Joko a pris sa retraite.
Et oui, le milieu de terrain emblématique anglais, passé notamment par Chelsea, a annoncé qu'il prenait sa retraite à 37 ans. Joko a disputé son premier match professionnel avec West Ham en janvier 1999 à l'âge de 17 ans. Il a défendu les couleurs de 7 clubs dont West Ham, Chelsea, Liverpool, Lille, Aston Villa, Tampa Bay Rowdies en ESL, l'équivalent aux États-Unis de la deuxième division. Avec l'Angleterre, il a disputé 3 Coupes du Monde pour 56 sélections avec 10 buts inscrits. Cole a été sacré champion d'Angleterre avec Chelsea en 2005, puis a disputé la finale de la Ligue des Champions en 2008, perdue face à Manchester United.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. République démocratique du Congo, après la volte-face de Félix Tshisekedi de l'UDPS et de Vital Kamerhe de l'UNC à la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition, que reste-t-il de la coalition Lumuka mise sur pied à Genève? Quelles sont les conséquences de leur retrait? Eddy Sango a joint pour une analyse l'éditeur du quotidien La Prospérité, paraissant à Kinshasa. Il s'agit de Marcel Ngoï.
Projet de Genève ou l'accord de Genève n'a pas été bien ficelé. Parce que pour aller conclure un tel accord, il fallait en principe s'organiser pour qu'en amont les leaders puissent consulter leur cadre, leur collaborateur, leur principaux collaborateurs. Parce que quand quelqu'un est investi d'une mission consistant à aller négocier à ce niveau-là, en principe, il doit être investi, il doit avoir, comme on l'appelle, toutes les prérogatives, tous les pouvoirs nécessaires pour conclure. On sent que la conclusion de cet accord n'a pas été entourée de beaucoup de précautions en termes de responsabilité.
On l'a entendu lors du meeting organisé sur la place des Martyrs, toute la foule demandait qu'on choisisse un candidat unique, donc ils avaient mandat.
Ça traduit une difficulté de ces leaders à pouvoir convaincre, à pouvoir maîtriser les troupes. Comme là, c'est peut-être le fait d'avoir conclu ça à distance et que le fait qu'ils aient été isolés en dernière minute et coupés de leur base qui a pu faire en sorte qu'un hiatus puisse s'imposer dans le cadre de la conclusion de cet accord. Donc la volte-face se justifie par le fait que les leaders, craignant pour eux-mêmes, ne pouvaient pas faire autrement. Et à ce stade, que faire d'autre? Parce que si tel est le problème, c'est de savoir comment Fayulu va faire pour continuer. Mais il va continuer avec ceux qui sont restés derrière lui.
Est-ce que ce ne sont pas là les jeux des égaux qui a joué? Est-ce qu'ils étaient, chacun d'eux était prêt à concéder? Puisque si on choisissait l'un ou l'autre, ça aurait été la même chose.
Il n'y a pas eu de concession mutuelle. C'est comme ça que lorsqu'il fallait décider, ils sont passés au vote. Fayulu a été choisi par vote. Ils ont voté, mais contre toute attente, ils s'attendaient que ça pouvait peut-être être eux-mêmes. Mais ils ont voté, et en définitive, c'est quelqu'un, un outsider qui est sorti. Ça veut dire qu'ils ont été, Kamerhe et Félix Tshisekedi, se sentent comme des personnes qui ont été soit torpillées, soit flouées.
Quelle devient la coalition, la Lamuka, qu'ils ont mis sur pied pour aller aux élections aujourd'hui?
Il appartient à ceux qui sont restés de mûrir leur stratégie pour aller jusqu'au bout avec Fayulu. Tandis que Kamerhe et même Fayulu l'ont attiré, le verre est tiré, il faut le boire. Ils n'ont qu'à s'assumer chacun pour voir par rapport à son électorat ce qu'il faut faire.
Quelles peuvent être les conséquences maintenant que l'opposition est écartelée?
Je considère que l'opposition vient de creuser là sa propre tombe. Parce que ceci se passe à combien de jours du début de la campagne électorale?
C'était Marcel Ngoï, l'éditeur du quotidien La Prospérité à Kinshasa. Et on va maintenant au Burkina Faso où Redemption Song Tour, c'est le nom d'un nouveau projet soutenu par le gouvernement italien pour sensibiliser à travers une tournée africaine les jeunes candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe et notamment l'Italie, un des principaux pays d'accueil des immigrants. À l'aide d'un film suivi de débats avec la jeunesse, la coordination du projet entend faire des propositions pour inverser la tendance. C'est un reportage de Issa Napon à Ouagadougou.
À travers la projection d'un film choc qui déroule les péripéties des migrants, suivi de débats avec des jeunes potentiels migrants, un important réseau d'ONG italienne dénommé Link 2007, soutenu par le gouvernement italien, sensibilise les jeunes de la région ouest-africaine sur les dangers de l'immigration clandestine. Le but de Redemption Song, c'est de trouver des stratégies gagnantes face à cette immigration clandestine pleine d'incertitudes, explique Cléophas Adrien Diomand du groupe de travail Migration et Développement au sein du ministère italien des Affaires étrangère et responsable du projet.
Redem Sangoutour a comme objectif de sensibiliser contre l'immigration clandestine, de se rencontrer des différents acteurs du système de la coopération, des ONG et des associations locales, pour voir de quelle manière on peut élaborer des propositions, des stratégies, surtout pour amener les jeunes à se fixer et à ne pas partir.
Grâce à Dieu que la garde côtière italienne est venue nous secourir en pleine mer. On était en perdition pour le rien.
Des images saisissantes, parfois insoutenables, apparaissent dans les films comme pour mieux frapper l'esprit des jeunes spectateurs, parmi lesquels Lassane. Ce migrant récidiviste avoue l'effet que lui a fait cette rencontre.
70% de mes idées, c'était partir à l'immigration. En août passé, j'étais au Ghana et je voulais passer par la mer de Takoradi. On avait cotisé 400 000 pour prendre la pirogue. Là, c'est mon oncle qui est un chauffeur qui m'a sauvé de la situation. Nous tentons toujours de résoudre l'Europe. Mais le film ce soir peut venir changer un peu l'idée.
Ces échanges ont emporté l'adhésion de Rakieta, qui met cependant le doigt sur certaines raisons qui amplifient l'immigration clandestine.
Il y a des jeunes sur place ici qui ont même des situations stables, mais qui décident de tout laisser tomber en pensant qu'en Europe ça sera peut-être beaucoup mieux. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Donc les gens vont en Europe dans la clandestinité. Pour aller cumuler 2-3 métiers, ils ne vivent pas du tout. Souvent, il y a la pression aussi de la famille, de la société. Par exemple, les gens qui sont ici, même quand ça va, quelqu'un qui vient de l'Europe, on le respecte mieux que toi.
Une situation déplorable soutient Cléophas Adrien Dioma, qui en appelle à une véritable action.
Quand on voit les images qu'on voit en Libye et surtout ceux qui meurent dans les bateaux sur la mer en allant vers Lampedusa, on se rend compte que ici, on investit beaucoup sur place. On peut vraiment aider les jeunes à ne pas partir et éviter les drames.
Cette campagne sur l'immigration clandestine concerne 5 pays de la sous-région, considérés par l'Italie l'un des pays d'accueil, comme de hauts lieux de départ de l'immigration clandestine. Il s'agit notamment du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La capitale tchadienne a abrité la toute première édition de la Coupe d'Afrique de slam poésie tenue du 5 au 10 novembre à N'Djamena. La compétition a été un rendez-vous pour 36 nations africaines. Elle a permis aux slameurs du continent de s'affronter dans cet art de la poésie chantée, le slam. C'est un récit de John Lyndon.
Au total, 36 pays étaient en lice pour cette compétition. Il n'en restait plus que 4 en demi-finale. L'Afrique du Sud, le Togo, le Sénégal et le Gabon. C'est finalement le Sud-Africain Tutu Kane Mweza, dit le Zulu, et le Sénégalais Abdourahmane Dabo, alias Al Farouk, qui se sont challengés en duel pour la coupe devant un public impressionné et un jury très exigeant. Al Farouk a été impitoyable dans ses vers chargés d'émotions. Il remporte le trophée de la première Coupe d'Afrique de slam.
Comme on le dit chez nous, on ne va pas en guerre pour mourir. Nous, en venant, on était bien armés pour remporter ce trophée-là. Et on y croyait, on a travaillé pour. Et Dieu a facilité que l'on en soit là aujourd'hui. Ce n'est qu'avec fierté qu'on le reçoit et humilité aussi.
Première grosse compétition, première victoire pour le Sénégal, première victoire aussi pour Abdourahmane Dabo. Une victoire qu'il dédie à son pays.
Je suis très très heureux en fait de recevoir cette distinction-là, qui n'est pas faite en mon nom, mais au nom de tout le Sénégal, de toute la Casamance et de toutes les personnes qui m'apprécient réellement et apprécient le slam et la poésie.
Au-delà du spectacle, cette première Coupe d'Afrique des slams avait un objectif, faire connaître cette poésie mise en chanson sur le continent et fédérer des artistes africains autour du slam. Car en Afrique, ce genre musical reste peu connu. Didier Lalaï.
On s'était dit, fallait essayer, on a essayé. On est arrivé à ce résultat et je suis très fier et peu importe. Celui qui gagne, c'est toujours l'Afrique qui gagne parce que pour nous, l'objectif justement, c'était d'unir les Africains, de mettre tout le monde en réseau. Donc quand vous avez tous ces lauréats qui vont bientôt, qui se sont échangés des coordonnées pour continuer à travailler ensemble, quand vous avez tous ces journalistes qui sont en train de travailler ensemble, venir de différents horizons, je pense que ça, c'est un pari. Pour l'Afrique.
Pour cette première édition, le Gabon s'est placé en troisième position derrière le Sénégal et l'Afrique du Sud. Rendez-vous a été pris pour la deuxième édition, sans doute pour une revanche.
Aïssa Girondin avec vous. Dans ce Washington Forum, retour sur le coup de théâtre survenu au sein de l'opposition en RDC après l'annonce d'un accord désignant Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Cet accord, signé à Genève, a volé en éclats en moins de 24 heures sous la pression des cadres et des militants de leur parti. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé leur retrait. Quelle analyse faire de ce revirement? Que vaut l'accord de Genève sans l'UDPS et l'UNC? Quelles sont les chances de l'opposition congolaise à la présidentielle de décembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Nous restons dans le domaine de la culture. Stan Lee, le créateur de Black Panther, de Spider-Man et de Iron Man et de Hulk, ainsi que de nombreux autres héros de bandes dessinées populaires, est décédé à l'âge de 95 ans. Les explications avec Arzuma Compaoré.
Si vous n'avez jamais entendu parler de Stan Lee, vous avez probablement entendu parler de Spider-Man ou d'un autre super-héros de la série de bande dessinée Marvel de Stan Lee. Beaucoup gardent d'ailleurs dans leur grenier des cartons remplis de ses œuvres. David Dalmakian, acteur de cinéma.
J'ai commencé à collectionner des BD en cours élémentaire. J'en suis tombé amoureux et je suis toujours à Marvel, DC et tout le reste. La première bande dessinée que j'ai achetée, c'était le numéro 243 de Avenger. Je n'ai jamais abandonné une BD que j'ai achetée.
Né à New York, Stan Lee, de son vrai nom Stanley Martin Lieber, a toujours été attiré par les livres et les films sur les héros. Après avoir trouvé un emploi chez un éditeur de bande dessinée, il commence rapidement à écrire des histoires sous le pseudonyme de Stan Lee. Il a un tel succès que la compagnie l'invite à former une équipe pour créer de nouveaux héros de bande dessinée. Le résultat, une série de bandes dessinées de Marvel avec des super-héros à renommée mondiale tels que Hulk, Spider-Man, Iron Man ou encore Daredevil, ainsi que des équipes telles que les X-Men, les Quatre Fantastiques et les Vengeurs. Stan Lee, créateur de bande dessinée.
Quand j'ai voulu faire Spider-Man pour la première fois, j'en ai parlé à mon éditeur. Je lui ai dit, je voulais faire ce gars appelé Spider-Man. Un adolescent, il a 1 million de problèmes, tout va mal. Mon éditeur a dit, Stan, tu as perdu la tête. Tout d'abord, personne n'aime les araignées. Quelle idée d'appeler un héros Spider-Man? Ensuite, un adolescent ne peut pas être un héros, il ne peut être qu'un acolyte. Et enfin, il a dit, tu dis qu'il a toutes sortes de problèmes, ne comprends-tu pas Stan? C'est un héros. Les héros n'ont pas de problème. C'est pourquoi ils sont des héros. Cela vous montre ce que je savais dans ma tête à l'époque.
Mais c'est ce côté humain qui a rendu les personnages de Lee populaires dans le monde entier. Ils tombaient amoureux, se blessaient et se débattaient avec des problèmes financiers. En 1972, Lee est devenu éditeur et directeur de la rédaction de Marvel Comics. 4 ans plus tard, 72 millions d'exemplaires de Spider-Man ont été vendus. Spider-Man et de nombreux autres héros créés par Lee ont fait la transition vers le grand écran, devenant ainsi des films à succès et générant environ 20 milliards de dollars de recettes mondiales au box-office.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique.
Le coup est décalé, lancé, pas moyen de l'arrêter. Faut pas que tu me demandes de venir m'amuser pendant que les nains diabolisent. La folie là-bas, mon rap n'en dit pas. Tous les amis de mes amis, même mes ennemis ont des amis qui ont des ennemis qui se demandent comment nous on fait pour pouvoir nous faire danser. T'appelles à qui est? T'appelles à où?
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Cheikh Kiero, à la console Alfredo Santos, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.